journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Que signifie la fin des combats à Baghouz sur les rives de l'Euphrate? Une défaite militaire pour Daesh, une victoire supplémentaire pour les forces démocratiques syriennes, certes. Mais que dire des capacités nuisances de l'organisation État islamique, des rejaillissements en Syrie comme en Irak? Élément de réponse dans cette édition avec à Beyrouth Aurélien Colli, à mes côtés Christian Chesneau de la rédaction internationale. Et bientôt en ligne, Salam Kawakibi, directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Un danger majeur pour notre pays est éliminé, déclare à l'instant le président de la République Emmanuel Macron. Périmètre restreint pour la 19e mobilisation consécutive des Gilets jaunes, arrêtés préfectoraux pris dans une quinzaine de villes. Premier rassemblement à Paris, place du Trocadéro, David Ravier est sur place. Puis la question de la bulle éco de ce samedi, quand la Chine achète l'Europe, que fait l'Europe ? Défaite territoriale à 100% de Daesh, communication de guerre maîtrisée par l'un des porte-paroles des forces démocratiques syriennes, Mustapha Bali, qui a annoncé la fin des combats à Baghouz. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Mathieu.
Aurélien, vous êtes en direct de Beyrouth, vous en revenez tout juste de Baghouz. Baghouz, Aurélien, terrain dévasté par des semaines de bombardements.
Oui, alors Baghouz est libéré, le soi-disant califat est totalement éliminé. Voilà le communiqué des forces démocratiques syriennes qui officialise en fait ce que tous les commandants, tous les combattants disaient déjà le week-end dernier quand j'étais sur place. Après 3 mois de campagne pour acculer Daesh dans ce village agricole aux confins du nord-est de la Syrie, après l'évacuation de 50 000 personnes civiles ou familles de djihadistes entre janvier et début mars, après la reddition aussi de milliers de combattants ces derniers jours, les forces arabo-kurdes ont gagné cette guerre. Alors elles l'ont gagnée en faisant le siège de l'enclave, en resserrant l'étau jour après jour, avec prudence, pour ne pas perdre inutilement, des hommes, en ouvrant aussi un corridor et en négociant discrètement pour laisser sortir civils et combattants qui se rendaient. Une stratégie qui s'est évidemment appuyée aussi sur les frappes aériennes, les tirs d'artillerie ravageurs de la coalition. La coalition n'a pas visé les zones de l'enclave où étaient les civils, mais plutôt les regroupements de combattants, leurs dépôts de munitions, leurs véhicules, des cadres aussi, des responsables précis qui avaient été localisés par les services de renseignement occidentaux. Cette campagne de siège couplée au bombardement a finalement payé car, bien sûr, elle a fait des victimes civiles en dépit des précautions à cause de la promiscuité, de la taille de l'enclave qui n'était plus ces derniers jours qu'une bande de terre d'une centaine de mètres de large. Cette stratégie d'épuisement, de guerre psychologique presque a payé. Elle a sapé en fait le moral et la détermination du dernier carré de combattants à l'intérieur de l'enclave.
Merci à vous Aurélien Colli en direct de Beyrouth et nous sommes comme convenu en ligne avec le politologue Salam Kawakibi. Vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Un premier commentaire peut-être sur ce que représentent ces images de défaite pour Daesh.
Comme vous l'avez bien mentionné, c'est une défaite territoriale. Pour l'instant, il n'y a aucun dirigeant de Daesh qui a été présenté aux médias. C'est intriguant un petit peu de ne pas voir que des combattants et que tous les dirigeants ne sont pas présentés aux médias. Il n'y a pas eu ni interrogatoire ni interview d'aucun des dirigeants soi-disant capturés. Il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines, en coordination avec des forces, des milices chiites irakiennes, il y a eu une possibilité de centaines de ces dirigeants de traverser la rivière sur des bateaux et aller dans le désert irakien. Ils ont, comme on dit dans le jargon, dans la région, ils ont acheté la route pour quelques heures. Tout cela laisse très dubitatif sur cette victoire annoncée.
Alors vous restez avec nous, Salam Kawakibi. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
De la rédaction internationale. Venons-en avec vous, Christian, aux capacités nuisantes de Daesh, capacités qui restent considérables.
Tout à fait, une capacité de harcèlement qui représente encore une source de grande menace. Ces cadres et ces combattants aguerris sont aujourd'hui entrés en clandestinité en Irak et en Syrie. Au passage, on ne sait pas si le pseudo-calife Abu Bakr al-Baghdadi est encore vivant, s'il est blessé. Les djihadistes se sont fondus dans les tribus et écument le désert de la Badia, une vaste région à l'est de la Syrie qui s'étend jusqu'en Irak. Dans les villes, des cellules dormantes frappent régulièrement des cibles civiles ou militaires. Ainsi, entre la mi-décembre et la fin février, le groupe terroriste a mené quelques 180 attaques en Syrie. À Manbij, par exemple, localité reprise pourtant en 2016, 4 soldats américains ont été tués alors que l'organisation avait pourtant été chassée de la ville. Il ne faut pas oublier non plus que Daesh est encore présent dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Ses combattants cohabitent avec des dizaines de milliers d'autres djihadistes. Les hommes du califat ont aussi accumulé, grâce à toutes sortes de trafics, un trésor de guerre qui va leur permettre de financer leurs activités terroristes et leur survie clandestine. Enfin, Daesh, tout comme Al-Qaïda, est devenu une franchise dans le djihad planétaire. Plusieurs mouvements terroristes comme Boko Haram au Nigeria, une partie des Chebab en Somalie ou encore le groupe Abu Sayyaf aux Philippines ont prêté allégeance à l'organisation d'Abou Bakr al-Baghdadi. Autant dire que la chute de Baghouz ne signifie loin de là, la fin de la guerre contre les djihadistes.
Salam Kawakibi, Daesh, on vient de l'entendre avec vous Christian. Daesh, d'abord, ne découvre pas la clandestinité et ensuite a bien des territoires de retrait et des âmes qui restent acquises à son combat.
Bien entendu, et surtout que les forces, les dites forces démocratiques syriennes n'ont pas les moyens de contrôler les territoires libérés. Ils n'ont ni les moyens, ni l'assise sociale, ni la connaissance de la région. Il faut savoir que ce sont des forces étrangères à la région. Ils viennent du nord, est, ouest, voire ouest de la Syrie. Ils sont principalement des forces kurdes, même si on a tendance à dire forces arabo-kurdes ou kurdo-arabes dans les médias en France, mais ce sont des forces dirigées par des officiers kurdes basés à Kandil, dans la montagne irakienne de Kandil. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme on l'imagine, des forces démocratiques et syriennes. C'est un groupe fort qui a été soutenu, mais qui ne pourra pas, sans le soutien, avec le retrait américain annoncé bientôt, et avec la timidité du soutien de européens, ils pourront pas du tout maintenir leur contrôle sur la région. Et le chaos va provoquer encore une fois le développement des cellules de toutes sortes de groupes terroristes, pas seulement Daesh.
Des cellules agissantes notamment en province de Kirkuk. Une question de Christian Chesneau.
Oui, justement, à propos des Kurdes, est-ce que vous ne pensez pas que les Kurdes vont être tentés finalement de faire une sorte d'accord tacite avec le régime de Bachar el-Assad?
Bien sûr, et ça a été déjà, les négociations ont été déjà entamées. Il y a eu des délégations qui sont rendues à Damas, mais comme vous le savez, le régime syrien, il exige beaucoup de concessions et les Kurdes ne sont pas encore prêts à donner ces concessions, même s'il y a des promesses d'auto-administration locale données par Damas aux Kurdes, mais cela reste très aussi incertain, voire l'engagement du régime syrien à ne pas respecter tous ses engagements depuis des décennies, voire plus.
Un dernier point, Salam Kawakibi. S'agissant de l'Irak et des marges de manœuvre, si je puis dire, de l'État irakien, a-t-il les moyens, cet État irakien, d'éteindre à petit feu toutes les ressources, de quelque manière que ce soit, de Daesh sur son territoire?
Je viens de vous mentionner un exemple de l'impossibilité de cela, comme les milices irakiennes ont vendu le chemin de fuite pour les dirigeants de Daesh vers le désert d'Al-Anbar. L'État irakien, avec une corruption aiguë et avec la non-représentation d'une force sociale assez importante dans le pays, il risque de, au contraire, de développer encore plus l'étendue de ce risque terroriste.
Merci à vous. Merci Salam Kawakibi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Christian Chesneau. Deux informations en bref encore à l'international. Deux explosions suivies de coups de feu entendus ce matin le long d'une rue de Mogadiscio où sont situés des ministères du gouvernement somalien. 4 morts et des dizaines de blessés. Selon un dernier bilan que l'on doit aux Nations Unies, le cyclone qui a balayé la semaine dernière le Mozambique a fait 417 morts. Combien de victimes au Zimbabwe également touchées? Nul n'est à même de le dire. L'ONU appelle aux dons et souligne que des milliers de rescapés se trouvent dans un état critique. Un an après les attentats terroristes de Trèbes et Carcassonne, premier hommage aux victimes militaires rendu ce matin par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, et le Premier ministre prendra la parole dans les minutes qui viennent. La 19e mobilisation consécutive des Gilets jaunes, caractérisée ce samedi par des interdictions de manifester dans les principales villes de France, avec à Paris le secteur des Champs-Élysées cadenassé. Bonjour David Ravier.
Bonjour.
Vous êtes-vous, David, en compagnie de Gilets jaunes près du Trocadéro? Comment ces mesures prises par la préfecture sont-elles perçues?
Eh bien ici, au Trocadéro, où plus d'une centaine de Gilets jaunes sont réunis, tous les manifestants que j'ai rencontrés pensent que ces interdictions sont une mauvaise décision. Pour eux, le fait d'interdire des zones de la capitale aux manifestants, ça ne fait qu'amplifier leur colère. Toutes les mesures prises, que ce soit les zones interdites, l'augmentation des amendes ou le déploiement des militaires de l'opération Sentinelle, ne servent à rien, selon eux. Les gilets jaunes présents veulent faire plier le gouvernement par tous les moyens. Quand on leur pose la question, les gilets jaunes pensent que l'utilisation des militaires est disproportionnée et que ce n'est pas leur rôle. En ce qui concerne les amendes de 135 euros, elles pourraient en dissuader certains. Mais les gilets jaunes pensent qu'ils sont tellement acculés financièrement qu'une sanction financière ne changerait rien à leur quotidien. Pour les zones interdites, les gilets jaunes se rassembleront autre part, soit au niveau du cortège autour d'Enfer Rochereau, soit dans d'autres lieux de la capitale pour continuer de faire entendre leurs revendications. Enfin, si ici il y a très peu de personnes au Trocadéro par rapport aux semaines précédentes, c'est peut-être aussi grâce aux 2300 contrôles préventifs qui ont été effectués par la police ce matin aux abords des lieux de rassemblement, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a beaucoup plus de touristes sur l'esplanade que de gilets jaunes.
Merci à vous, David Ravier.
La bulle économique. Marie Viennot.
On vient tout juste de l'apprendre, la Chine et l'Italie viennent de signer un accord sur la route de la soie qui inquiète ses partenaires européens. Question, quand la Chine achète l'Europe, que fait l'Europe ?
À son arrivée au Palazzo Quirinale et à Rome, le président chinois Xi Jinping est accueilli avec faste par son homologue italien. Après des années de discussion, l'Italie sera le premier pays du G7 à s'associer aux nouvelles routes de la soie, ce grand projet chinois qui prévoit des milliards d'investissements en Europe et en Afrique. En Italie, les Chinois vont investir dans le port de Trieste et cela fait aujourd'hui grincer des dents. Pourtant, quand les Chinois sont devenus propriétaires du port du Pirée en Grèce, pas un mot. Il fallait bien privatiser pour alléger la dette. Quand les Chinois sont devenus actionnaires à 49% du dernier terminal du Havre en 2013, pas un mot non plus. Il fallait bien de l'argent pour accueillir de plus grands porte-containers. Idem à Anvers, Rotterdam, Valence. 14 ports d'Europe comptent déjà un actionnaire chinois. Dans 6 d'entre eux, il est même l'actionnaire majoritaire. Alors pourquoi tant d'émoi et pourquoi maintenant ? L'Union européenne serait-elle gagnée par des idées protectionnistes ? Reconnaîtrait-elle avoir été trop ouverte et trop naïve ? Quand vous posez ainsi la question à la Commission européenne, on vous répond non. Ce qui a changé, ce n'est pas l'Union européenne, ni sa stratégie d'ouverture à la mondialisation, qui est intacte. Ce qui a changé, c'est la Chine. La Chine ne doit plus être considérée comme un pays en développement, écrit la Commission européenne dans un rapport censé jeter les bases d'une nouvelle stratégie plus réaliste, affirmée et au final défensive envers la Chine. Américains et Européens n'ont pas les mêmes méthodes, mais ils font le même constat d'une Chine qui ne respecte pas les règles du jeu de l'OMC, force à des transferts de technologies, protège ses industries stratégiques et subventionne ses entreprises d'État pour qu'elles fassent leur marché à l'étranger. En 2017, les deux tiers des investissements chinois en Europe ont été faits par des entreprises financées par l'État chinois, alors que les règles de concurrence communautaire interdisent aux entreprises européennes l'accès à l'argent public. Il y a comme un hic. Il y a aussi une accélération exponentielle des investissements chinois en Europe. D'un peu plus de 2 milliards d'euros en 2009, ils sont passés à 29 milliards en 2017, 37 milliards même en 2016, une année record. Personne n'analyse ces investissements à long terme, il n'y a aucune photo d'ensemble. Chaque pays agit dans son coin selon ses propres intérêts. La Commission européenne propose alors un mécanisme de surveillance, mais les États la refusent. Ce serait du protectionnisme jusqu'à ce que les visées prédatrices chinoises s'attaquent aux crimes de lèse-majesté, aux fleurons technologiques allemands.
Kuka.
Kuka est un fabricant de robots industriels. Ce n'est pas la première entreprise de pointe allemande à passer sous capitaux chinois, mais c'est celle de trop. Berlin ne voit alors plus Pékin sous l'angle du partenaire commercial, mais du rival systémique, s'inquiète le patronat allemand. Quand la Commission remet sur la table son mécanisme de surveillance en septembre 2017, tous les pays acceptent, le Parlement valide et 18 mois plus tard, ce mécanisme entre en vigueur, ce qui est un record de rapidité pour l'Europe. La Chine n'est cependant pas la seule visée par ce mécanisme et il ne faut d'ailleurs pas exagérer son emprise dans l'Union européenne. En stock, les capitaux chinois ne représentent que 3% des capitaux non européens investis dans l'Union européenne. Loin derrière les Américains, 34%, les Suisses, 12%. Et en troisième position, devinez qui ? Les Bermudes. Ce paradis fiscal de 60 000 habitants est le troisième investisseur en Europe. Juste après, on trouve Jersey et en cinquième position, les îles Caïmans. Et derrière ces investissements, qu'y a-t-il ? Justement, on ne sait pas. Il y aurait matière aussi à discuter de ces investisseurs-là à qui on ne déroule même pas le tapis rouge, faute de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Le temps de la naïveté n'est pas encore tout à fait révolu.
Merci à vous, Marie Viennot. Deux mots de la météo de l'après-midi, temps mitigé au nord, ensoleillé au sud. Édition préparée avec M. Le Chili, à la technique Pierrick Monsigny.